Bonjour à tous, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur du Tirois. Dans cet épisode 37, cette édition spéciale numéro 5 et cette première partie, je reviens sur la fête des étoiles qui a eu lieu à Marignac le 23 juillet 2022 et je vous propose d'écouter les conférences de Axel Tollens, conférencier et animateur de Cosmodyssée, animateur d'astronomie dans le Diois, et de Ulysse Mariette, qui s'occupe du projet de réserve de ciel étoilé pour le parc naturel régional du Vercors, et qui parle de pollution lumineuse. Je vous souhaite une bonne écoute, à bientôt.
Bon, ben bonjour à toutes et à tous. On s'est déjà tous vus un peu individuellement. Mais je vous remercie une nouvelle fois d'être là pour ce début de fête des étoiles de Marignac qui promet d'être belle si les nuages dégagent, mais c'est annoncé comme tel. Donc on va faire confiance au calculateur météo. Alors moi je suis Axel Tollens, je suis dans l'Astroclub du Diois avec Pierrick qui est ici, Rémi derrière et Fred. On a aussi une émission de radio sur la radio locale, Radio Diwa, une émission diffusée le dimanche matin qui s'appelle L'Étoile Polaire et qui est podcastable, comme on dit dans le jargon. On peut la réécouter en allant sur le site internet. Voilà, dimanche matin à 10h, je ne me souviens jamais de l'heure, c'est pas en direct. C'est à 9h, c'est ça. Je ne sais jamais si c'est 9 ou 10. Les astronomes, on a tendance à se coucher tard, à se lever tard et. J'ai rarement l'occasion de m'écouter pendant la diffusion. Et donc, alors je vais vous parler. J'avais marqué sur la fiche une petite histoire de l'astronomie. Je vais vous parler en fait de quatre scientifiques, deux savants même et deux scientifiques, puisqu'à une époque, ça ne s'appelait pas encore scientifique. Je vais commencer à chaque fois par une petite citation, peut-être les plus cultivés pourront me dire de qui il s'agit. Alors, première citation. On n'est pas par ordre chronologique. Je ne vous donne pas d'idée de quand ça a été parlé, cette citation. Le Soleil, avec toutes ses planètes qui gravitent sous sa gouverne, prend encore le temps de mûrir une grappe de raisin, comme s'il n'y avait rien de plus important. Vous savez de qui c'est? Akhenaton? Non. C'était Galilée. A dit ça. Galilée, qu'on peut considérer un peu comme le premier scientifique. C'est un peu à ce moment-là, à partir de Galilée, qu'on s'est dit on peut comprendre le monde par l'observation, par la déduction, par la répétition des expériences. On peut se rapprocher de la réalité, l'estimer de plus en plus précisément. Galilée, on est au XVIe siècle. Il est connu pour quoi, à part cette petite phrase que je viens de vous dire. Galilée, il a nettement amélioré les lunettes astronomiques. On est en 1609 et on considère, c'est la première trace écrite qu'on ait de quelqu'un qui a utilisé une longue vue, une lunette, mais pas pour regarder à l'horizon les bateaux comme ça se faisait, mais lui il l'a braqué vers le ciel. Il l'a braqué vers Jupiter. Depuis les Grecs déjà, on savait qu'il y avait pas que des étoiles dans le ciel, ils avaient précisé qu'il y avait des étoiles qui semblent fixes dans le ciel, et puis il y a des choses qui bougent, des étoiles errantes. En grec, des planètes S, des astres vagabonds. Il les avait nommés, on en reparlera ce soir. Et donc lui, il a braqué Jupiter en sachant que c'était une planète, mais sans savoir ce qu'était une planète. Et il pointe Jupiter et autour de Jupiter, il voit quatre petits points. Et puis il regarde le lendemain et les petits points sont plus au même endroit. Le lendemain encore, les petits points ont encore bougé. Alors il se demande au début qu'est-ce qu'il peut voir. Aujourd'hui, on sait que c'était les lunes, les quatre principales lunes, les satellites naturels de Jupiter. On les appelle d'ailleurs aujourd'hui les lunes galiléennes. Et c'est en voyant ça qu'il a commencé à remettre en question l'ordre établi, on va dire, qui disait que tout tournait autour de la Terre. Parce que là, il a vu des choses et la seule manière qu'il avait de l'expliquer, c'était de dire que ça tournait autour de Jupiter. Il s'est dit, donc tout ne tourne pas autour de la Terre, la preuve, quelque chose tourne autour de Jupiter. Et petit à petit, on en est à ce qu'on sait aujourd'hui. Que les planètes tournent autour du Soleil, les lunes autour des planètes, et ainsi de suite. Ça, c'était les lunes de Jupiter en janvier 1610. Il a aussi observé Saturne, deuxième planète très brillante dans le ciel. Et Saturne, il a vu les anneaux. Vous les verrez ce soir Saturne va se lever au-dessus du Landas vers minuit. On pourra l'observer. Et il a vu ces anneaux, et pareil, il savait pas, il avait pas la connaissance de ce que ça pouvait être, il fallait qu'il estime. Et il a vu ça, il a décrit comme s'il y avait des anses, des oreilles. Il disait, cette planète, elle a des anses sur le côté, il ne comprenait pas bien. Mais surtout, l'année d'après, il a observé, et là, il n'y avait plus rien, plus d'anneaux, plus d'oreilles. Et il a trouvé ça bizarre. Et puis l'année d'après encore, elles sont revenues. D'ailleurs, il avait dit, en se rapprochant de la mythologie, le dieu Saturne mange ses enfants. Il avait dit, en voyant la disparition des oreilles, Saturne a vraiment mangé ses enfants. Mais non, puisque l'année d'après, les voilà de retour. Il a fallu attendre 40 ans et l'astronome Huygens, un astronome hollandais, qui a compris que c'était des anneaux. Alors après, il y a encore eu des débats sur la nature de l'anneau. Est-ce que c'était un cerceau solide qui tournait d'un bloc ? Enfin bon, maintenant, on sait que c'est plein de petites poussières, de glace, de petites particules. Voilà, Galilée, en 1610, il avait, pour faire ses observations, une lunette astronomique. Je crois que c'est 3 mm, 5 mm. Celle du Soleil, c'est déjà une 50, celle avec laquelle vous avez observé le Soleil. Le petit télescope noir, on est à 25 cm. 30 pour le bleu et 63 pour le grand en bois derrière. Et lui, il observait ça avec une lunette de 5 mm. Et puis, il a aussi découvert la nature de la Voie lactée. Vous savez, cette grande traînée dans le ciel blanchâtre qui avait été observée depuis des millénaires, évidemment. Mais lui, pareil, en braquant sa lunette dessus, il a vu qu'en fait, c'était plein d'étoiles, des milliards d'étoiles. On y reviendra plus tard quand Fred, à la tombée de la nuit, parlera du ciel, de ce qui nous entoure. Mais la Voie lactée qu'on voit, c'est en fait notre galaxie qu'on voit de l'intérieur. C'est la combinaison de milliards d'étoiles, mais qui sont tellement loin que leur lumière, on ne peut pas les voir une par une, leur lumière se combine un peu. Et pour finir sur Galilée, c'est aussi le premier homme à avoir observé Neptune. Mais il n'avait même pas noté vraiment. Il a vu qu'il y avait quelque chose, il est passé à autre chose. Et c'est plus tard qu'en regardant dans ses observations écrites, on s'est dit, mais il l'avait déjà vu, en fait. Il a fallu attendre plus tard pour formellement l'identifier. Voilà pour Galilée. Deuxième scientifique, deuxième citation. Il est donc d'innombrables soleils et un nombre infini de terres tournant autour de ces soleils, à l'instar des sept terres que nous voyons tourner autour du soleil qui nous est proche. Un nombre infini de soleils et un nombre infini de terres tournant autour de ces soleils. Une idée ? Giordano Bruno. Ce n'était pas vraiment un astronome, pas un scientifique, plutôt un philosophe, un rêveur, on pourrait dire, qui simplement regardait les étoiles. Et c'est la première trace écrite qu'on ait de quelqu'un qui a imaginé la vie extraterrestre. Il s'est dit peut-être que les étoiles, c'est comme notre Soleil, et peut-être qu'il y a des planètes autour, et peut-être qu'il y a de la vie dessus. Là, on est avant Galilée, on n'avait pas encore observé les planètes. Et rien que pour avoir pensé ça et l'avoir écrit, l'avoir dit, vous imaginez, à son époque, il a eu de graves problèmes avec l'Église. Giordano Bruno, c'est un contemporain de Galilée, mais il est mort juste avant les premières observations. Donc voilà, il a imaginé un univers infini où les étoiles soient des soleils autour desquels orbitent des mondes. Il développe aussi l'idée, il milite pour l'idée de l'héliocentrisme, ce que je disais, que le soleil est au centre du système qu'on appelle maintenant le système solaire, et que les planètes tournent autour. Pareil, à l'époque, c'était risqué de dire ça. Il l'a payé cher, d'ailleurs. Troisième citation. Expliquer toute la nature est une tâche trop ardue pour un seul homme ou une seule époque. Il est plus sage de faire peu en étant sûr de soi et laisser le reste à ceux qui viendront après que présumer de tout sans être sûr de rien. Là, on est vraiment au cœur de la pensée scientifique. On étudie, on observe, on documente. Peut-être on ne comprendra pas, peut-être c'est nos descendants qui comprendront, peut-être dans 3 générations, grâce à notre travail, on fait avancer petit à petit les choses comme ça, depuis maintenant 4 siècles. Une idée de qui a pu dire ça ? C'est Isaac Newton. Isaac Newton, c'est celui qui s'est pris une pomme sur la tête dans la légende. Il a dit « aïe », c'est ça, JB, tu t'en souviens ? Oui, tu vois, tu y étais... Isaac Newton, il est connu pour beaucoup de choses. Il a fait avancer beaucoup de domaines de la science. Mais dans l'astronomie qui nous concerne aujourd'hui, c'est simplement lui qui a inventé le télescope. Avant, on avait des lunettes. Galilée observait avec une lunette. C'est un jeu de lentilles. Et lui, il a utilisé un télescope avec un miroir. C'est ce qu'on a, les trois appareils que vous voyez là. Ce sont des télescopes qu'on dit encore aujourd'hui de type Newton. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on braque vers le ciel. La lumière vient taper au fond des télescopes dans un gros miroir. La lumière est renvoyée en haut du télescope sur un miroir qui dévie la lumière pour qu'on puisse observer sur le côté. Ça, c'est Newton qui a inventé ça. Newton est aussi connu, bien sûr, pour son travail sur la lumière. C'est lui qui a découvert que la lumière blanche, celle qui nous entoure, on pouvait la décomposer, qu'elle avait des composantes de toutes les couleurs, les 7 couleurs principales. Ce qu'on appelle le spectre visible aujourd'hui, on sait que la lumière, ce sont des grains qu'on appelle des photons. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails, retenez ça. Et ces photons, selon s'ils sont plus ou moins énervés, on va pouvoir les voir, ils vont avoir des effets un peu différents. Et qu'on parle de rayons X, d'ultraviolet, de rayons gamma, micro-ondes, infrarouges, on est toujours dans ce spectre électromagnétique. Et une toute petite partie de ce spectre, c'est la lumière visible qui nous permet de voir les couleurs. Il a découvert ça, Newton, en faisant un tout petit trou dans son mur pour laisser passer un fin rayon de soleil. Il a placé un prisme, vous savez, une petite roche transparente taillée. Et il a observé que la lumière blanche rentrant dans le prisme sort de l'autre côté multicolore. Vous connaissez peut-être la jaquette de Pink Floyd, Dark Side of the Moon. C'est exactement ça. Et surtout, il s'est rendu compte que s'il remettait un autre prisme derrière, ça recomposait la lumière blanche. Donc il s'est dit, c'est pas les prismes qui font ça, c'est vraiment dans la lumière qu'il y a quelque chose à chercher. Il est même allé plus loin. Il s'est même rendu compte, en séparant comme ça la lumière, qu'il voyait un arc-en-ciel, mais pas complet. Il avait des endroits avec des zones d'ombre. Et selon sa source de lumière, que ce soit le soleil, que ce soit une bougie, que ce soit, il devait y avoir du gaz à l'époque, et bien il se rendait compte que ces traits, ces ombres n'étaient jamais au même endroit en fonction de la source de lumière. Pour le soleil, c'était toujours pareil. Et ça, c'est les bases de ce qu'on appelle la spectroscopie. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte grâce à ça que chaque élément, quand il renvoie de la lumière, bien il garde certaines parties de la lumière. Et du coup, en observant ça, on peut déterminer les composantes de l'objet lumineux. C'est comme ça qu'on sait de quoi est composé Jupiter, de quoi est composé le Soleil. On observe, on voit où il y a les traits, on dit, ah ben, s'il manque cet endroit-là, c'est qu'il y a de l'hydrogène. S'il manque cet endroit-là, et voilà, ainsi de suite. Et le dernier dont je vais vous parler, alors lui, ça date de beaucoup plus longtemps, et on n'a pas, j'ai pas de citation de lui, mais ce scientifique, bien avant que ce mot existe, c'est Ératosthène. Il est né en moins de 276 avant Jésus-Christ. Ératosthène, il a estimé avec une précision incroyable la circonférence de la Terre en moins de 200, on va dire à peu près. Et comment il a fait ça pour estimer la circonférence de la Terre? Il a utilisé un puits, un bâton et un chameau. C'est vrai. Il avait remarqué dans son village natal, en actuelle Égypte, que tel jour de l'année, le puits du village ne produisait aucune ombre autour. Donc il s'est dit, ah ben, à ce moment-là, s'il n'y a aucune ombre, c'est que le soleil est bien au-dessus. Et puis plus tard, il était aux alentours d'Alexandrie, si je me souviens bien, et à la même date, il a vu que les objets faisaient de l'ombre. Ça lui a semblé bizarre. Et donc il a simplement planté un bâton à Alexandrie. Il a attendu le jour où son puits était éclairé bien par-dessus. Il a mesuré l'ombre déportée du bâton à quelques centaines de kilomètres de là. Ça lui a donné un angle du soleil qui est au-dessus du puits et pas tout à fait au-dessus du bâton. Et grâce à ça, par le calcul, il a estimé la circonférence de la Terre. Il s'est trompé, je crois, de 4000 kilomètres. C'est vraiment pas grand-chose. Sur 46 000, c'est ça, je me trompe peut-être. 40 000. Et un chameau, pourquoi un chameau? Parce qu'il fallait savoir la distance précise entre le puits et le bâton. Et à l'époque, il y avait un métier, j'ai oublié le nom, qui consistait à c'était un béla, ça me reviendra peut-être. Oui, c'était une sorte de géomètre un peu de l'époque. Le chameau est réputé pour avoir un pas très régulier, Et du coup, ils ont simplement compté le nombre de pas. Le métier, c'était de compter le nombre de pas de chameaux pour déterminer des distances, des parcelles à l'époque. Et donc, il a payé quelqu'un pour aller du puits au bâton en chameau et compter les pas du chameau. Et c'est comme ça, ensuite, avec un peu de maths en plus de ces trois accessoires, qu'il est arrivé à une estimation incroyable de la Terre. Et donc, on voit là, je rappelle, on est en moins 200 avant Jésus-Christ. Et cet homme avait déjà démontré par le calcul que la Terre était ronde, par l'observation et par le calcul. Et il aura fallu attendre plusieurs siècles pour que ça soit une idée vraiment admise et qu'on arrête de brûler les gens qui pensaient ça. Voilà pour ces quatre scientifiques que j'ai choisis. Évidemment, il y en a plein d'autres. D'ailleurs, Newton disait « Je me suis appuyé sur l'épaule des géants, je n'ai pas créé tout seul. » Et effectivement, dans les sciences, dans toutes les disciplines qui sont en plus maintenant de plus en plus mélangées, de plus en plus mixtes, voilà, tout plein de scientifiques que j'aurais pu citer, j'ai choisi ces quatre que je trouvais assez marquants dans l'histoire de l'astronomie, de la compréhension de ce qui nous entoure. Voilà, messieurs, dames, s'il y a des questions, peut-être, je peux y répondre. Et puis sinon, je vous donne rendez-vous d'ici un quart d'heure, peut-être 20 minutes, pour une conférence par Ulysse Mariette, qui travaille au parc naturel du Vercors, et qui nous parlera d'éclairage public et de pollution lumineuse. Je vous remercie. Ah, pardon. Merci.
C'est une question générale. Aujourd'hui, on ne brûle plus du tout les gens et c'est une chance, mais est-ce qu'il y a des scientifiques qui découvrent encore des choses ou qui remettent certaines pensées scientifiques en question et qui bouleversent beaucoup de connaissances qu'on a aujourd'hui? On ne va pas les brûler, mais par contre, c'est perturbant. Est-ce qu'il y a des théories comme ça aujourd'hui qui remettent tout en question ou...
Alors, effectivement, on ne brûle plus les scientifiques, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils pensent. Là, comme ça, je dirais que non, il n'y a pas eu récemment vraiment de quelqu'un qui est arrivé en disant « j'ai découvert un truc et ça chamboule tout ». Je pense que l'explication, c'est parce qu'aujourd'hui, on a énormément de sciences théoriques. On fait des hypothèses, on en fait plein. Et souvent, il n'y en a qu'une qui est vraie. Ou, pour résumer, on peut dire ça. Mais c'est des travaux qui sont sur des années. Puis il n'y a plus, beaucoup moins aujourd'hui, de scientifiques seuls. Comme ça, c'est des équipes, c'est des universités. Il y a des collaborations internationales et tout ce brassage fait que je pense que ça avance aussi plus vite. Là, on perd moins de temps en communication, il n'y a pas deux personnes qui vont découvrir les mêmes choses avant de se rendre compte 50 ans après qu'ils avaient vu pareil, voilà, grâce à la communication qu'on a aujourd'hui. Voilà. On me demande ce que c'est un trou noir, on me demande presque tous les soirs et je réponds toujours la même chose, qu'un trou noir c'est troublant. Et que moi, mon métier avec Cosmodyssée, c'est vraiment de faire un premier pas dans l'astronomie pour les gens, de découvrir un petit peu, de comprendre dans quoi on évolue, qu'est-ce qui se passe autour de nous, comment l'observer, et surtout ensuite de s'émerveiller en l'observant. Si on parle de trou noir ou autre, on sort de l'astronomie pour rentrer dans l'astrophysique, qui est beaucoup moins mon domaine, mais qui est passionnant aussi, bien sûr. Mais donc, je ne peux pas en parler bien plus. Merci. Donc rendez-vous dans un quart d'heure, disons vers les 20-25, avec Ulysse Mariette pour parler pollution lumineuse et éclairage nocturne. Merci. In time, the trees die in light will fade, but I hope for a new breath, a new life to take me away. In time, the trees die and light will fade, but I hope for a new breath, a new life to take me away. Let us pretend we've got it together. Let us ignore the coming sun. We'll sing the body electric until the machine and soul are one. I've seen the twinkle struggle. Turn to life, a deadly
Bah, merci à toutes et à tous d'être là. Ça sera un peu moins marrant que le clown, mais j'espère que ça sera quand même marrant. Du coup, le titre de la conférence, c'était la pollution lumineuse. Plus largement, du coup, on va aborder ce sujet-là, mais on va aborder un peu le projet de réserve internationale de ciel étoilé. Du coup, moi, je suis en stage au parc naturel régional du Vercors. Et ça fait plusieurs années maintenant qu'il y a ce projet. Donc voilà, le ciel étoilé, on le verra super bien ce soir. Et du coup, c'est parfait, ça illustrera superbement mon propos, je l'espère. Du coup, on a une petite carte ici. Alors, vous verrez peut-être mieux sur l'écran. Mais du coup, je ne sais pas si ça se met sur l'écran. Si ça se met, c'est génial. Donc, sur cette carte qu'on voit un petit peu en transparence, on a les niveaux de pollution lumineuse en Europe. Donc la pollution lumineuse, c'est un sujet qui est un peu qui prend de l'ampleur ces dernières années. Il y avait une étude qui disait qu'il y avait peut-être 10 ans, peu de Français étaient au courant encore, et maintenant on est vraiment dans 80-90%. Donc je pense que c'est pas la première fois que vous en entendrez parler ce soir. La pollution lumineuse, on estime qu'il y a 80% de la population européenne qui vit sous un ciel entaché de pollution lumineuse. Et entre 92 et 2012, le nombre de points lumineux, donc les lampadaires, c'est pas uniquement l'éclairage public, hein, la pollution lumineuse, c'est aussi les points d'éclairage privés. Tout ça, ça a augmenté de 89%. Donc on a de plus en plus de lumière qui est émise en fait par nos sociétés. Et du coup, ça donne ces niveaux de, enfin ces cartes là qui permettent de visualiser un petit peu. Donc en fait, ce que vous voyez, enfin l'opposition qui est intéressante, c'est vraiment les océans et les mers. Avec les villes, puisqu'en fait les océans et les mers, on les voit vraiment blanche-bleue, quoi, parce qu'il n'y a pas du tout de lumière qui est mise dans les océans, à part par les bateaux, mais là on n'a pas trop de bateaux. Et voilà, les grandes villes, on les repère très vite, hein, on a Londres, Paris, on peut avoir Berlin, et c'est vraiment dans ces pays qui sont les plus développés qu'on aura le plus de lumière, parce que si vous remarquez, dès qu'on va un petit peu plus vers l'est, on a quand même moins de lumière qui est émise par les pays. Donc on dit souvent que la lumière, en fait, c'était un progrès assez significatif ces dernières années. En fait, c'est vraiment un signe de modernité, de progrès, de sécurité. Et maintenant, en fait, ça en devient presque un fléau, puisque les impacts sur la lumière, les impacts de la lumière sont vraiment très importants, comme on va le voir par la suite. Donc la petite histoire du déploiement de l'éclairage. Donc il y a deux aspects qui ont contribué au déploiement de l'éclairage, hein. C'est assez récent. Avant, on vivait plus dans le noir le soir, et puis on s'est mis à allumer des réverbères. Il y avait cette fameuse histoire dans Le Petit Prince, l'allumeur de réverbères. Voilà, maintenant on n'est plus trop à ce niveau-là. Il y a des lumières vraiment partout. Les deux aspects importants, c'est la sécurisation. En fait, on est des êtres qui voyons très peu la nuit. Donc il y a un peu cette peur du noir qui est persistante dans la population, même si, le temps a s'estompé, mais il y a quand même un peu cette crainte de l'obscurité la nuit. L'esthétisme aussi pour la mise en lumière, on met souvent en lumière les églises, les bâtiments, des bâtiments assez importants. Bon, la Tour Eiffel, je ne vous fais pas le dessin, mais globalement, tout ce qu'on veut mettre en valeur le soir, on va l'éclairer. Donc l'éclairage, c'est d'abord synonyme de progrès technique, et cette perception, en fait, elle se modifie, et la notion de luisance, elle apparaît un peu au fil des années. Les idées reçues, c'est qu'en éteignant les lumières, en fait, souvent là, il y a 12 000 communes en France qui pratiquent maintenant l'extinction de l'éclairage public sur 36 000, donc on est presque à un tiers. Et globalement, en fait, ce qui se passe quand il y a un peu cette décision qui est prise, c'est que la population a assez peur, en fait, de ce qui va se passer le soir quand on va éteindre les lumières. Il ne se passe pas grand-chose au final de plus. On fait juste des petits progrès sur les factures d'énergie. Et en fait, voilà, le gros souci, c'est qu'on a peur de se faire cambrioler, de se faire attaquer. Enfin, voilà, c'est un peu le... Je vais dans les extrêmes, hein, mais en fait, les chiffres montrent que 90% des cambriolages, ils ont lieu la journée, quand on part tous travailler. C'est à ce moment-là que les personnes visitent les maisons. Et en fait, le soir, s'ils se baladent avec des lumières, on va vite les repérer, généralement. Donc, c'est un peu une idée reçue. Deuxième idée reçue, c'est qu'en éteignant, il y a vraiment cet aspect sécurité routière qui ressort. Qu'est-ce qui va se passer si on éteint les lumières sur l'autoroute ? Alors, je ne sais plus le nom exact de l'autoroute, mais dans le nord de la France, il y avait eu une panne de l'éclairage public sur une autoroute, parce qu'en fait, il y avait des vols de câbles de cuivre. Et en fait, pendant plusieurs mois, il n'y avait pas eu d'éclairage, et tout de suite, on avait crié « Oh là là, attention, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être super dangereux !» Et en fait, en 3 mois, les accidents, ils ont diminué, ils n'ont fait que diminuer. Et ils se sont posés la question, mais pourquoi on n'a plus de problème d'accidentologie ? En fait, ils se sont rendus compte que c'était l'éclairage, les gens roulaient moins vite. Parce qu'en fait, voilà, ça ne fait pas ce tunnel de lumière. Donc on prend un peu prudence et on roule moins vite. Donc voilà les deux idées reçues principales. Ensuite, la pollution lumineuse, de quoi on parle précisément ? Bah là, on est encore dans la journée, donc on a encore la lumière du jour. On s'en rendra compte plus tard autour de nous, mais on est quand même bien isolé, donc on ne verra pas grand-chose. Mais si vous habitez en ville, vous allez sûrement avoir ces types d'images qui vont résonner un peu dans vos esprits. C'est plusieurs échelles, la pollution lumineuse. Hein. Tout d'abord, ça peut nous toucher un peu toutes et tous à l'échelle d'un point lumineux. Voilà, typiquement, on imagine que si on a sa chambre là et qu'on n'a pas de volet, bon, c'est rare de ne pas avoir de volet, vous allez me dire, mais parfois, il y a des gens qui me disent « Mais moi, la lumière, elle passe sous les volets, sous les rideaux. » Bon, parfois, on est plus ou moins gêné par la lumière, mais globalement, voilà, la lumière intrusive, ça peut être ça. Ça peut être la lumière de l'extérieur qui rentre dans les logements. Donc, ça peut être un peu fatigant. Et après, on a une image de Grenoble, là, que vous voyez plus ou moins. Et en fait, toute cette lumière qui est émise, elle éclaire les massifs environnants. Et ça va vraiment créer des barrières écologiques pour la biodiversité. Alors, on peut dire ouais, les oiseaux, ils vont passer autour, etc. Et un des petites anecdotes importantes, c'est que au World Trade Center aux États-Unis, du coup, ils avaient fait deux grands faisceaux lumineux qui montent presque à 1 km de hauteur pour commémorer en fait les attentats du 11 septembre. En fait, ils se sont rendus compte que quand ils allument ces faisceaux lumineux, ça perturbe la migration de plusieurs millions d'oiseaux. Et ils ont regardé avec des radars parce qu'ils comprenaient pas pourquoi il y avait autant d'oiseaux. Et en fait, ils se sont dit, mais en fait, c'est juste la lumière. La lumière, ça a vraiment perturbé le cycle de vie des espèces. Et donc, comme on le voit, les impacts sur la biodiversité, modification des axes de migration, modification des comportements sur la reproduction, l'alimentation, même le déplacement, hein, parce qu'il y a des espèces qui sont vraiment attirées par la lumière, d'autres qui sont répulsées, donc ça peut vraiment modifier en fait leur parcours de vie et de mort aussi. L'effet de halo, on le verra peut-être ce soir avec Di. La diffusion de lumière dans l'atmosphère, donc j'espère que vous voyez plus ou moins parce que là c'est plutôt clair, mais en fait c'est vraiment voilà, dès qu'on est à distance d'une ville, y a les marins ils ont bien cette image quand ils reviennent, qu'ils étaient en mer et qu'ils reviennent vers les continents, ils ont vraiment ce halo lumineux qui leur apparaît, c'est vraiment, on voit bien la Terre qui revient. Et en fait ce halo il se diffuse vraiment dans l'atmosphère, surtout quand on a un peu des nuages, et dans le Vercors avec la neige c'est encore plus accentué en hiver. En fait, ce halo, voilà, la lumière se propage vraiment très haut. Et c'est sur ça qu'on essaie de jouer, notamment dans le projet de réserve de ciel étoilé. Alors, on fait une petite quiz. En saison estivale, à peu près maintenant, combien d'insectes, selon vous, meurent chaque nuit par point lumineux ? Vraiment, si on allume un lampadaire là, dans le coin, là, si on compte un peu tous les insectes qui sont morts le lendemain matin, c'est pas très joyeux comme idée, mais y a des gens qui ont dû le faire. Pour compter. Donc du coup, on a 4 réponses. Hein, vous pouvez faire 1, 2, 3. Sinon, B, ouais. 1280 plus d'autres réponses, ouais. Bon, fort heureusement, c'est que 150. Ça fait quand même beaucoup d'insectes si on multiplie ça par le nombre de points lumineux en France. Hein. Là, vraiment, on est à 11 millions, donc si on multiplie ça par 150, ça fait des milliards d'insectes. Et voilà, un exemple. Évidemment, c'est une moyenne, hein. mais voilà, ça, c'est la moyenne globale qu'on a. Et on le voit, hein, si, enfin, vous le voyez toutes et tous, quand on allume de la lumière en été, on va vite avoir des insectes qui vont venir et qui vont nous embêter. Mais au final, voilà, en fait, à l'échelle d'une ville, ils vont tous mourir. C'est très triste, mais en fait, la lumière, c'est la deuxième cause de disparition des insectes après les insecticides. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est peu connu, mais en fait les impacts ils sont vraiment importants. Et quand on sait l'importance des insectes sur toute la chaîne alimentaire, ça fait un peu peur, même sur la pollinisation. Donc voilà un peu les impacts sur les insectes. Après sur la RIS, du coup, la réserve internationale de ciel étoilé, pour la définir, en fait c'est un espace de grande étendue sur des parcelles qui sont publiques ou privées. Et en fait, sur ces parcelles, on s'est rendu compte qu'on avait un ciel étoilé d'une qualité exceptionnelle et qui fait l'objet d'une protection. Alors exceptionnel, il y a quand même peu d'endroits où on a encore épargné de la pollution lumineuse, ça va être plus être le désert, qu'on s'entende bien, il y a une meilleure qualité de ciel dans le désert du Sahara que dans le Vercors. Mais à l'échelle de l'Europe, en fait, ces endroits, ils sont rares. Donc, quand on prend le Vercors, c'est déjà super bien. Et en fait, le but dans ces réserves, c'est de valoriser le ciel étoilé à des fins donc, scientifiques, culturelles, éducatives. Et le but, c'est du coup de préserver à la fois le ciel étoilé, enfin notre perception qu'on a, parce que les étoiles ne vont pas disparaître, hein, c'est juste notre perception au ciel, et aussi tout l'environnement nocturne qui est vraiment très impacté par, par la lumière. Une réserve, du coup, c'est un peu comme un parc national pour ceux qui ont l'idée. Il y a une zone cœur, qui est vraiment là où on va maximiser les efforts. Et après, on a une zone périphérique où, en fait, cette zone tampon, elle va permettre d'adhérer au projet. Et ça va permettre de faire une transition. Là, à l'échelle de la lumière, c'est assez visible. Hein. Dans la zone cœur, on va mettre très peu de lumière. La zone tampon, il y en aura peut-être encore un peu. Mais on va faire en sorte de diminuer, en fait, ces émissions-là. Et la zone périphérique, elle tire aussi les bénéfices de la zone cœur, du fait qu'il y a moins de lumière émise. Ça, c'est une petite carte des réserves internationales de ciel étoilé. Hop, là, je passe. Du coup, on en a quatre qui sont déjà existantes. La première en France, c'était la réserve du pic du Midi de Bigorre, avec l'observatoire très connu. Vous êtes peut-être déjà allé là-bas. C'est à la frontière espagnole. Et ça, c'est un projet qui a été labellisé en 2013. A suivi le parc national des Cévennes, qui a été labellisé en 2018, si mes souvenirs sont bons. Et après, on a eu Alpe Azur Mercantour. Alors ça, c'était un projet porté par plusieurs collectivités. Il y avait un PNR, le parc national du Mercantour et aussi des communes. Après, on a eu le PNR de Millevaches en Limousin. Ça, je ne sais pas si vous savez le situer. Bon, c'est globalement un peu vers Clermont-Ferrand, un peu au-dessus de Clermont-Ferrand. Et après, on a ce projet de RIS dans le Vercors avec le super logo. Ce projet de réserve internationale de ciel étoilé, c'est pas le seul. Hein, y en a encore d'autres en France, puisque globalement, en fait, ça... les baronnies aussi également. Exactement, ouais, les baronnies que j'ai pas mis. Enfin, on le voit peut-être sur une carte suivante, qui est en projet également, ouais, comme nous. En fait, il y a plusieurs parcs qui se sont rendus compte que le travail sur le ciel étoilé, c'était un moyen de lier pas mal de thématiques. Et ces projets, ils sont de plus en plus présents. Et c'est vraiment une bonne chose qu'on se soucie de plus en plus de la pollution lumineuse, puisque du coup, ça permet de créer un peu des zones exemplaires, ou enfin, en tout cas moins impactantes sur l'environnement. La carte suivante, c'est justement ces réserves de ciel étoilé qui sont intégrées un peu dans la carte de pollution lumineuse. Donc là, on a la réserve du pic du Midi de Bigorre, première labellisée en 2013. Donc, je ne sais pas si vous voyez super bien la carte, du coup, mais en gros, c'est la pionnière en France. Après, on a des labellisations successives. Donc, on a eu toutes celles que je vous ai citées qui sont en rouge. Je ne sais pas si vous les voyez très bien, du coup. Et après, on a un peu tous les projets qui sont dans les PNR. Donc, pour le coup, il y a les baronnies, le Vercors, on a les Landes de Gascogne, et on a aussi le Morvan. Donc, globalement, c'est quelque chose qui va prendre l'ampleur, en tout cas dans les parcs naturels régionaux. Pour les raisons que je viens de vous citer, en fait, voilà, on se rend compte que maîtriser la pollution lumineuse, ça permet de conjuguer pas mal d'aspects. Les critères principaux de ces réserves, donc là, je vous ai mis la première de couverture des dossiers de candidature de ces réserves-là, qui font 400 pages quand même, hein. C'est des gros projets. Le but, c'est de pas s'envoler, non, je rigole. C'est de définir une zone de 700 km². Ça, c'est la zone cœur et la zone périphérique. Ça doit être un minimum de 700 km². Et l'obscurité naturelle, elle doit y être suffisamment bonne. Alors, l'obscurité naturelle, c'est la luminescence du ciel. C'est le NSB. Alors, pour les plus astronomes d'entre vous, vous êtes déjà au courant. Mais en fait, cette luminescence, on va la mesurer avec des capteurs. L'échelle, c'est magnitude par arc seconde au carré. Et en fait, ça va nous permettre de nous donner un chiffre entre 16 et 22. Sachant que 22, c'est la valeur référence, c'est vraiment le ciel le plus obscur qu'on peut obtenir, et que les niveaux qu'on a en ville, ils sont plus autour de 16-17. On le verra un peu plus tard. Globalement, du coup, le premier but, c'est de définir cette zone et puis de faire adhérer toutes les communes. Donc nous, dans le parc, il y a 83 communes, donc on essaie de vraiment mobiliser tous les acteurs autour de cette idée-là. Et ensuite, un des deuxièmes axes, c'est de développer des activités de sensibilisation pour voilà, montrer un peu ce qu'on fait, ce que je suis en train de faire avec vous. Et l'idée, c'est de transmettre un peu à la population cette idée que c'est important de protéger le ciel nocturne et l'environnement. Ensuite, pour les élus, on fait un gros travail avec les élus, puisque c'est sur les communes qu'on peut avoir le plus d'influence. On produit un guide de l'éclairage public. Donc ça, en gros, c'est quand les communes, elles réfléchissent un peu à leur consommation d'énergie, la nécessité de changer leur éclairage public. Elles ne savent pas trop les choix qu'elles vont faire. Et parfois, les communes, elles sont un peu approchées par tout type de personnes qui vont tenter un peu de vendre leurs produits aussi, en somme. Et globalement, l'idée, c'est de transmettre un peu un guide, puisque ça permet de donner aux élus des choix raisonnés, en tout cas sur l'éclairage, pas mettre des éclairages trop blancs, des éclairages trop puissants, pas s'amuser à éclairer tous les arbres remarquables qu'on a. Et puis enfin, le quatrième critère principal, c'est de faire tout ce dossier avec une réponse détaillée à l'ensemble du cahier des charges qui est donné. Et du coup, le label RIS, il est délivré par une association américaine, c'est IDEA, qu'on pourrait traduire par Association internationale du ciel obscur. Donc nous, on dit ciel étoilé, mais c'est IDEA, International Dark Sky Association. Du coup, ça, c'est la carte de la réserve dans le Vercors. Donc vous voyez un peu les niveaux de pollution lumineuse dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Donc en milieu urbain, ça va être très rouge. On voit bien Grenoble. Du coup, il n'y aura pas Valence sur la carte, mais Grenoble, ça va être la référence. Et après, les sites vraiment les plus sombres, c'est la réserve naturelle nationale des Hauts-Plateaux. Et ce qu'on voit, c'est que dans le sud du Vercors, on a une qualité de ciel qui est quand même meilleure que dans le nord, puisqu'en fait, on n'a pas cette influence de Grenoble pour le coup, puisque la lumière de Grenoble, comme je vous ai dit, l'effet de halo, il monte très très haut. Et en fait, même si on est par exemple à Autran-Méaudre, où on se trouve assez loin de la ville, en fait, on va quand même être impacté par cette lumière-là, qui va remonter sur les falaises et qui va vraiment polluer le ciel étoilé. Après, au niveau de Die, voilà, en fait, toutes les villes un peu importantes, on va avoir un peu ces niveaux qui augmentent. Et globalement, nous, le but dans cette carte, c'est de faire des évolutions sur les communes par commune pour arriver à faire baisser les taux de pollution lumineuse. Et d'arriver à des valeurs le plus bas possible. Donc là, actuellement, il y a 39 communes du parc qui sont dans ce projet. On en a 12 en zone cœur, et ensuite le reste en zone périphérique, qu'on voit en vert. Là. Je ne sais pas si vous voyez bien la légende. Voilà, sur les 83 communes de ce parc. De quoi parle-t-on du coup? Ça, je vous l'ai bien dit, la zone cœur, la zone protégée avec la meilleure qualité de ciel, la zone tampon qui entoure. Et ensuite, le but, c'est d'analyser tout l'éclairage qu'on a dedans. Donc, c'est un gros boulot. On regarde tous les points lumineux. On essaie de travailler aussi avec les syndicats d'énergie pour récolter leurs données, voir là où l'éclairage public il est prioritaire à rénover. Et ensuite, on fait un plan d'action pour améliorer ces rénovations. On essaie d'accompagner les communes vers ces décisions, en lien avec les syndicats d'énergie. Et on sensibilise le public. Du coup, ça, c'est les évolutions entre 2017 et 2020 sur plusieurs communes, plusieurs points de la réserve de ciel étoilé. Alors, je ne sais pas si vous allez très bien voir, parce que c'est quand même assez loin, mais sinon, n'hésitez pas à vous rapprocher. Donc, entre 2017 et 2020, on a réussi à avoir... Donc, ces cartes, elles sont faites avec des données satellites. C'est un bureau d'études qui s'en occupe. Et en fait, on a vu qu'il y avait des évolutions notables, notamment voilà, vers Bouvante. Ça, c'est au niveau de Fondurle. En fait, l'extinction en milieu de nuit, elle a été décidée. Et on se rend compte que voilà, on fait baisser un peu les niveaux. Et ça, bon, là, vous allez me dire, c'est que sur une carte, mais du coup, localement, on a moins de lumière. Et c'est quand même des bons résultats. On a au-dessus de Chamaloc, la chapelle en Vercors, qui fait aussi de l'extinction. Mais par contre, à l'inverse, ce qui est vraiment important de suivre, c'est qu'on peut aussi avoir, comme à Luz-la-Croix-Haute, des augmentations de lumière. Donc ça, c'est vraiment à suivre du coup dans le projet pour éviter que justement il y ait trop de lumière qui se développe, ou qu'on se rende compte qu'il y a une commune qui est rénovée et qui émet beaucoup trop de lumière et que du coup c'est un peu à l'inverse de ce qu'on cherche. Donc ces évolutions, voilà, elles sont globalement, ça va dans un bon sens. Hein, les communes, elles se rendent bien compte qu'elles consomment moins d'électricité, donc elles payent moins. C'est quand même la motivation première, hein, moins payer de facture d'électricité. Mais l'adhésion à ce projet de protection du ciel étoilé est quand même plutôt en bonne voie, je trouve. Donc, mesurer la qualité du ciel nocturne, comment on obtient ces cartes? Donc, je vous dis, c'est par des satellites, mais aussi par des mesures qui sont faites au sol. Donc, malheureusement, je n'ai pas le capteur avec moi, là. C'est ce petit capteur qui est noir sur la droite. Et ça, c'est un Sky Quality Meter, donc il y a certains astronomes qui l'ont. Et quand ils se rendent sur un site, avant de faire leurs observations, ils vont regarder la qualité du ciel. Et ça va leur permettre d'avoir une idée un peu du taux de pollution lumineuse qu'ils vont avoir autour d'eux. Donc c'est vraiment un appareil où avant on faisait les mesures, voilà, on donnait les mesures, je donnais un appareil à chacun d'entre vous, vous rentriez tous chez vous et le but c'était de vous dire bah, à 1h du matin vous allez vous réveiller pour penser à moi et puis appuyer sur le bouton et regarder le chiffre. Et maintenant on les a automatisés, enfin le bureau d'études, c'est pas moi, c'est automatique. Donc là j'en ai placé à Fondurles et au plateau d'Ambel. Et ça va nous permettre d'avoir les mesures sur ces sites-là et de savoir un peu les niveaux entre 17 et 22. Et vu qu'on serait en zone cœur de risque, le but c'est vraiment d'être dans les meilleures moyennes, sachant que le maximum dans la zone cœur, voilà, c'est 21-20. Donc on cherche vraiment, enfin les niveaux d'exigence sont élevés. Le label risque, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir facilement. Je suis revenu au tout début. Donc ça, c'est un peu ce que ça peut donner sur les mesures. Alors là, on voit vraiment pas trop sur l'écran, mais bon, on va regarder cette courbe-là. En fait, ce qui est intéressant, c'est de... ça, c'est les niveaux de luminescence, donc entre 14 et 23. Et ça, c'est les heures auxquelles c'est mesuré, donc de 20h à 3h. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, quand le soleil se couche, bah, la luminosité baisse. Donc voilà, on avance dans le temps. On peut avoir des petits pics, hein, qui sont des émissions de lumière locales. Et surtout, on peut avoir des marches assez importantes vers 22-23 heures qu'on voit ici. Et ça, en fait, ce qui est significatif dans certains cas, c'est que ça correspond avec l'extinction de l'éclairage public. Donc on se rend compte qu'en fait, ces actions d'extinction sur le ciel, elles ont vraiment des impacts importants. Là, ça ne se voit pas trop, ça se voit plus sur d'autres courbes. Mais parfois, on peut vraiment gagner beaucoup, passer une certaine heure, parce que juste on éteint les lumières. Et puis après, voilà, ça remonte. Hein, déjà, passé 1h, 2h du matin, le jour, il revient et ça remonte. Donc ça, c'est les mesures, ça ressemble à ça, et après on fait une moyenne, on a un niveau meilleur, une moyenne, et puis un nombre de mesures, et après tout ça, on les analyse et on peut en faire des cartes. Vers un éclairage plus sobre, donc les grands principes de l'éclairage, c'est surtout, il y a 6 critères principaux. Un des premiers, c'est de penser à quel moment on a besoin d'éclairer, les horaires, les durées, est-ce qu'on a besoin d'éclairer toute la nuit, à partir de quand, jusqu'à quand. Donc les communes qui font le choix d'éteindre, parfois en fait elles éteignent complètement parce qu'on se rend compte qu'elles n'en ont pas forcément besoin. Ça c'est un peu un extrême, mais globalement elles commencent un peu vers minuit, après on augmente un peu parce qu'elles économisent un peu plus. Et puis après elles peuvent aussi adapter en fonction des saisons. L'hiver on a besoin que ça soit éclairé un peu plus tôt ou que ça s'éteigne un peu plus tard. Donc on pense à comment on éclaire, donc la densité de la position de tous ces points lumineux, comment on va placer nos lampadaires, comment on va les rapprocher, etc. Ça, c'est important aussi, globalement, c'est comment on éclaire si vous aviez un jardin, comment vous placez vos points lumineux pour pas trop éclairer. Et ensuite, la caractéristique des luminaires. Ça, c'est assez important, c'est la température de couleur, on le verra peut-être un peu mieux. Mais en fait, selon la température de la lumière, si elle est blanche ou jaune, ça va vraiment avoir des impacts sur bah, du coup, notre vision à nous, mais aussi sur l'environnement. Ça, c'est les progrès qui ont été faits, par exemple, à Saint-Agnan-en-Warcor avant et après la rénovation. Voilà, on voit qu'il y a quand même beaucoup moins de lumière qui est émise, ça éblouit beaucoup moins. Et sur les habitants s'en rendent compte, et les élus aussi se disent « Ok, on retrouve un ciel étoilé, on commence à voir des mammifères nocturnes revenir. » 5 minutes, ok. Donc voilà, l'environnement, les intérêts, c'est qu'on a moins d'électricité qui est consommée, donc ça fait moins de CO2, donc ça fait pas beaucoup, mais quand même, on consomme moins d'électricité. Après, on va respecter plus le cycle naturel des espèces, hein, puisqu'on va les laisser plus se reposer. La nuit, c'est un des derniers espaces sauvages qu'on est en train de coloniser petit à petit avec cette lumière. Et surtout, voilà, pour certains habitants, la qualité du sommeil qui est améliorée, sachant que le sommeil, c'est super important quand même pour se reposer. Et à moins de lumière parasite qui rentre chez les gens. Des économies d'énergie qui sont conséquentes, puisque du coup, rien que pour l'éclairage public, on fait fonctionner un réacteur nucléaire par nuit, juste pour faire de l'éclairage public, donc c'est quand même assez important. L'éclairage public, c'est 37% de la consommation d'une commune, donc ça varie, mais globalement, c'est un peu la moyenne. Et surtout, ça coûte très cher. En dépenses d'électricité, c'est un peu la moitié des dépenses d'une commune, parfois. L'éclairage public en France, il est assez vieux, passé 25 ans, donc nos luminaires, globalement, ils sont peu adaptés, ils sont un peu en fin de vie. Il ne faut pas forcément les rénover, mais en tout cas, il faut éviter qu'ils émettent vers le ciel, c'est ça qui va être le plus impactant. Éviter de perdre la lumière, en fait, voilà, que la lumière soit remise vers le ciel. Donc globalement, c'est vraiment d'éviter des lumières qui se diffusent un peu vers le haut, mais de centrer la lumière vers le bas et éclairer uniquement quand c'est nécessaire et aux bonnes intensités. Pour finir, un peu des exemples de communes qui ont fait le choix d'éteindre. Voilà, une fois passé leur rénovation, ça c'est un peu les exemples. Là, on éteint, hop, on n'éclaire plus du tout, on rallume à 5 heures. Il y a d'autres communes qui font de la gradation lumineuse, donc qui baissent leur intensité de lumière et qui vont les augmenter quand le jour se lève. Il y a des communes qui vont combiner, qui vont à la fois baisser les niveaux d'intensité et éteindre, sachant que ça, c'est uniquement avec la technologie de LED. Après, le coût annuel aussi, le choix qu'on fait sur les technologies d'éclairage, ça peut être assez significatif. Bon, là, on parle vraiment juste de chiffres, mais c'est aussi l'enjeu de l'éclairage. Si on éteint, on va économiser vraiment beaucoup. Et selon la technologie, on va économiser aussi plus. Après, c'est l'astrotourisme. Donc, en gros, ce qui est aussi lié à la réserve de ciel étoilé, c'est de diversifier le tourisme dans le Vercors. Il y a quand même de moins en moins de neige, etc. Je ne vous fais pas de dessin, mais du coup, l'astrotourisme, c'est un peu en plein essor dans certaines régions. Et en fait, ce ciel étoilé, après, il est reconnu et les gens peuvent venir en profiter comme dans les autres réserves. On a un petit vocabulaire, voilà, ça c'est un peu un nuage de mots que j'ai fait, que vous connaissez. Donc là, on a des télescopes, des coupoles, on fait une soirée et on est près des baronnies provençales et du Vercors. Et cet environnement nocturne, il permet voilà, de valoriser aussi certains événements, comme la nuit des étoiles, ce qu'on est en train de faire, et de rendre cet accès au ciel étoilé qui est un peu en voie de disparition chez les personnes qui habitent en ville. Globalement, si on habite à Grenoble, on ne voit pas la Voie lactée. Et dans les grandes villes, voilà, les enfants qui grandissent, s'ils ne sortent pas, ils ne voient pas trop la Voie lactée. Donc, en fait, on lit un peu plusieurs aspects. Donc, on lit un peu les économies d'énergie, la reconnexion au ciel étoilé en tant que patrimoine commun de l'humanité. Après, on fait des actions sur l'environnement et la biodiversité. Il y a aussi du tourisme qui se crée en plus sur ces zones-là, le tourisme insolite en cabane ou en tente. Et après, voilà, on fait de l'éducation, de la sensibilisation à l'environnement et au territoire. Voilà. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore labellisé, le Vercors, mais c'est en bonne voie. Et il y a des mesures qui sont faites chaque année pour voir comment elle évolue, la qualité de ciel. Et surtout, il y a des actions qui sont faites avec les communes pour voir comment elles rénovent leur éclairage public, quelles aides elles peuvent obtenir et comment on peut influer positivement sur leur éclairage tout en l'adaptant aux besoins. Je parle pas plus parce que Axel il va me dire je parle trop, mais n'hésitez pas si vous avez des questions du coup. Je remets la petite carte qu'on avait avant du coup, là où on a le meilleur ciel dans le Vercors, ça va vraiment être sur la réserve. Donc c'est vraiment toute la zone qui est rouge là. En fait c'est vraiment là où on est le plus loin possible des communes. Donc toute la réserve des hauts plateaux, c'est vraiment là où on a le moins de lumière. Après même si on en sort un petit peu, si on se rapproche pas trop des villes, on se rend compte que toute la zone centrale du Vercors, passé une certaine heure, l'heure d'extinction de l'éclairage public des communes, on va avoir un bon ciel. Mais par contre, plus on remonte dans le nord, plus on va avoir l'influence des grandes villes comme Grenoble, ou à plus on se rapproche de Valence et de la vallée du Rhône, plus les niveaux de pollution lumineuse ils augmentent. Oui, globalement, plus on s'en descend dans le sud, mieux c'est. Après, on a quand même plus on descend dans le sud, on va aussi avoir l'influence des villes méditerranéennes. Mais les régions les plus isolées, c'est celles où on va avoir les meilleures qualités de ciel, les écrins, etc. Par contre, en Vanoise, vu la densité de stations de ski, bah là, on a moins de ciel étoilé. Voilà. Merci. Dites-moi. Et à Marignac, on est à combien alors ? Il faudrait l'appareil de mesure, mais je sais que Marignac, ils font de l'extinction de l'éclairage. Et disent, ils y réfléchissent aussi, hein, puisque en fait, ce qui pousse un peu à réfléchir à ça, je vous l'ai dit, c'est le prix du kilowattheure aussi. Mais le chiffre exact, je ne saurais pas vous dire. Je pense que c'est, si on regarde, c'est autour de 10, bah, ça reste autour de 20, milieu un peu suburbain. Et après, dans les alentours, ça devient un peu milieu rural, site sombre. Mais bah, c'est pas mal. En tout cas, c'est meilleur que Villard-de-Lans ou Tranméo de Lens-en-Vercors. Pour les raisons que je disais plus tôt. Voilà. Mais après, la carte, n'hésitez pas, hein, si vous la voulez, pour regarder, il n'y a pas de souci. Bah, merci à tous pour votre attention, toutes et tous.
Merci Ulysse pour cette présentation du projet de réserve de ciel étoilé dans le Vercors.